Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici le récit assez dur, je vous préviens, d'un pompier qui, après être intervenu sur un accident de voiture très douloureux, se retrouve atteint d'un syndrome de stress post-traumatique, comme un soldat qui rentre de la guerre. Une histoire que je tire du livre d'Éric Gouvernet aux éditions de L'Harmattan, Blessure d'âme d'un soldat du feu. Il sera là, bien sûr, pour le débrief. De l'accident à la lente reconstruction d'Éric, voici cette histoire que j'ai écrite avec Tuc Duhal de Dieu le veut, réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Comme beaucoup, j'ai eu une enfance bousculée, élevée entre mes grands-parents et des parents séparés. Entre les chansons de Berthe Silva.
C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman.
Et les musiques des années 70 qu'écoutaient mes parents. Une famille fragmentée qui m'amène à une scolarité tout juste suffisante. À 18 ans, je m'engage dans les commandos parachutistes de l'air. Et quand je reviens à la vie civile, comme j'ai appris le dépassement de soi, l'esprit de sacrifice, je choisis le métier de sapeur-pompier, à 7 dans l'Hérault. D'abord volontaire et puis professionnel. Et les années se succèdent, comme ça, de cycle de garde en cycle de repos. J'enchaîne les simples chutes dans la rue, les accouchements, les malaises cardiaques, les accidents de la circulation, les suicides, les accidents du travail, les bagarres, les conflits familiaux et les apéros qui tournent mal. Et je pénètre dans l'intimité des familles. Derrière chaque fenêtre, il y a des tapisseries différentes et des odeurs dans le couloir. Je côtoie la solitude, la souffrance et la mort. Je me souviens de cette maman qui s'est suicidée par pendaison avec la photo de ses enfants dans un cadre autour du cou. Et de cette adolescente qui s'était pendue avec son casque de Walkman. Je me souviens de ce grand-père qui gardait son épouse morte depuis des semaines. Et de ce nourrisson qui semblait endormi, mais qui s'était étouffé dans la nuit. Pour moi, c'était le pire, ça. Les enfants. En 1999, je vis une aventure particulière. On m'envoie au Kosovo, une opération humanitaire, dans un camp de réfugiés qui s'appelle Stankovac. Un camp prévu pour 5000 personnes et qui en accueille 24 000. Dans ma vie, c'est une expérience humaine hors norme. La guerre, les familles décimées, les enfants mutilés, le bruit des bombes. Je m'occupais du secteur Delta, où vivaient 5000 personnes. Je me souviens, je me suis attaché à une petite fille de 9 ans. Elle s'appelait Valbonia. C'était une boule de vie au milieu de ce désastre. En mai 2017, ça fait 27 ans que je suis pompier à 7. Adjudant-chef et chef de groupe. Je suis très loin d'imaginer ce qui va m'arriver. Le lundi 22 mai 2017, je me souviens, c'était une belle journée. Le matin, en prévision de la saison qui arrive, je participe à des manœuvres sur le massif de la Gardiole. Et sur le coup de 14h30, je reçois un appel radio. Chef de groupe 7, vous prenez intervention pour inondation sous le théâtre de 7, je répète, le théâtre de 7, rupture de canalisation. Et je me retrouve quelques minutes après, dans les entrailles d'un théâtre humide. J'en sors à 17h30 et immédiatement, j'appelle la salle opérationnelle.
Éric vient d'avoir un accident qui implique plusieurs véhicules. Tu peux te rendre sur place? T'es tout prêt?
Je suis tout prêt, en effet, alors que mes collègues vont devoir traverser toute la ville. Évidemment, sur la voie rapide, la circulation est arrêtée, alors je m'engage à contresens et je remonte la file des voitures. Et quand j'arrive sur place, il n'y a aucun véhicule de secours. Aucun. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Au loin, je Je vois un poids lourd légèrement en travers au milieu des voies. Et au milieu, une masse grise qui ressemble à une voiture. Et soudain, j'aperçois mon chef de centre. Il rentre chez lui, sa voiture s'est arrêtée à quelques dizaines de centimètres de l'impact. Eric, va voir dans la voiture devant le camion. Je sais pas combien ils sont. Moi, je m'occupe de demander des secours. Je cours vers les véhicules impliqués. Le choc a été énorme, au point que l'essieu avant du camion a reculé. Le chauffeur est là, debout, les yeux hagards. Il est en état de choc. Mais à première vue, il n'y a pas d'urgence vitale. Monsieur ? Monsieur, c'est des pompiers. Vous ne bougez pas, hein ? Vous restez là, vous vous asseyez, une ambulance va arriver. Moi, je vais aller faire le tour de la voiture. Vous m'avez compris, monsieur ? Je m'approche de la voiture. C'est une 7 places, écrasée, totalement déformée. Le choc a dû être colossal. Le conducteur et le passager sont inaccessibles, ils sont piégés par l'amas de tôle. Alors je fais le tour et je constate que le conducteur est mort en fait et le passager convulse. Et à l'arrière, je vois des corps, plusieurs corps enchevêtrés et aussi deux sièges bébés. Un qui est arraché et qui est vide et un autre derrière le conducteur qui est pris dans la tôle froissée avec une petite main et un pied qui dépasse. Et entre les deux sièges bébés, deux corps d'adultes. Peut-être trois, je n'arrive pas à les compter. Et là, entre les jambes de l'un des corps, je vois un petit bébé, la tête vers le bas, une petite fille qui doit avoir 3 mois. Elle doit venir du fauteuil bébé qui est vide. Il faut que je les sorte. Les enfants, tous les deux. Ah ! La porte est bloquée. Je vais passer par la fenêtre, quitte à m'allonger sur les autres corps. La petite fille ne respire plus. Alors je commence par lui insuffler de l'air avec ma bouche, par son nez. Je me retrouve avec de la poussière de verre dans la bouche. Je recommence. Je crois apercevoir un début de respiration. Alors avec mes épaules, je force sur les sièges. Et j'arrive à la libérer, j'arrive à la sortir. Mais je n'ai pas de peau. Alors je la pose sur le sol, je n'ai aucun matériel. Mais je commence une réanimation, et là, un collègue arrive. « Mais qu'est-ce que tu fais, Eric ? Eh ben tu vois, je masse. » Il me regarde. Son visage est horrifié. Je regarde à nouveau la petite fille. Son corps n'est plus entier. Il manque la moitié de sa tête, tout l'arrière de sa tête. Je viens de faire une réanimation à un enfant qui n'était plus entière. Je regarde ce petit corps, un petit moment encore. Je le place dans ma veste de feu. Et pour qu'elle ne reste pas là, sur le sol, je vais la poser dans la cabine du poids lourd. Et je fais ça aussi pour la mettre à l'abri des regards, ceux des badauds et ceux de mes collègues qui ne vont pas tarder à arriver. Et puis j'y retourne, comme si j'avais une mission divine. Je réussis à ouvrir la porte arrière. La femme derrière le passager, qui est sans doute la maman de la petite fille, respire difficilement. Et comme le moteur fume, je me dis, faut la sortir avant le feu. Alors je coupe sa ceinture de sécurité, j'essaye de la dégager en prenant le maximum de précautions, en tenant sa tête droite. Mais on dirait qu'elle s'enfuit dans mes bras, comme une poupée désarticulée. Alors je finis par la sortir de la voiture en la tenant par ses vêtements. Et puis j'y retourne. Je retourne dans l'épave chercher les autres. Il y a une dame plus âgée, sans doute la grand-mère. Je coupe sa ceinture de sécurité avec mon couteau et quand elle est contre moi, soudain, elle arrête de respirer. Et moi je sens quelque chose qui me traverse, physiquement, comme si son âme avait quitté son corps. Et je me sens impuissants, comme s'ils avaient décidé de tous partir en ne me laissant aucune chance de les aider. Je la sors, je la dépose sur le sol, je cherche un regard, une aide, une ambulance qui serait arrivée, mais non. Alors je commence un bouche à bouche. Et ensuite des compressions thoraciques. Et là, Une équipe arrive enfin, deux collègues avec du matériel. Allez-y, prenez-la en charge, moi j'y retourne. Maintenant, il faut que je sorte le petit dans le siège bébé. Je m'enfonce dans la carcasse, j'arrive au niveau du petit fauteuil qui est pris dans le piège de fer. L'enfant ne respire plus. Je passe ma main entre ses jambes, je remonte, je relève sa tête. Et aussitôt, l'air s'engouffre dans ses poumons. Et quand il respire, il envoie du sang partout. Il est incarcéré, il a les jambes coincées dans les renforts latéraux. Impossible de le sortir. Et là, je vois des visages qui arrivent d'un peu partout. Mes frérots sont enfin là. Même le médecin de l'hélicoptère est là. Mais d'où sort-il? Je n'ai même pas entendu l'hélico se poser. Et moi, je tiens toujours ce petit visage. Ce petit corps qui se bat pour respirer un peu d'air. Le médecin dit « Bon les gars, il faut le sortir maintenant, sinon on le perd. » Mon collègue Marco a réussi à se glisser par le coffre. Et je m'entends encore crier sous l'effort pour dégager les jambes du bébé. Ah ! Ah ! Mais rien ne bouge. Il n'y a plus qu'une seule solution. Sacrifier ses jambes. Je les entends craquer comme une grosse branche d'arbre. Et là, je peux enfin le dégager avec ses petites jambes qui sont comme celles d'une poupée de chiffon. L'équipage de l'ambulance le prend tout de suite en charge. Et là, je prends conscience des moyens qui viennent d'arriver. 8 ambulances, 2 fourgons de secours routiers, le SAMU, les policiers. Et moi je me sens vidé. Alors je retourne au camion. Je récupère le bébé qui est toujours caché dans ma veste de feu et je l'emporte dans mes bras comme si je voulais essayer de le sauver encore une fois. Je traverse toutes les équipes qui sont au travail. Personne n'imagine que dans ma veste, tout contre moi, il y a un petit corps et je vais le déposer dans ma voiture. Et je reste là, avec elle, comme pour la surveiller, la garder. Mais sa maman aussi est morte. Alors nous décidons de les mettre ensemble sous le même drap. Il n'y a que 2 survivants. Le petit garçon qui doit avoir 3 ans et qui est dans un état d'urgence absolue. Et l'un des adultes, ils sont évacués par hélicoptère. Bon, messieurs, vous allez tous vous rendre au centre de secours pour un defusing avec la CMP, hein? La CMP, c'est la cellule médico-psychologique. Et un defusing consiste à décrire à chaud notre ressenti. Et moi, je râle. Ils nous font chier, chef, avec leur CMP, là. L'opérationnel doit primer, non? Au defusing, des voix tremblent et d'autres marquent une distance avec l'événement. Et moi, je ne pense qu'à rentrer au centre de secours. Alors, j'abrège cette séance et je rentre à 7. Personne ne me retient. Il me laisse libre de ma démarche. Au petit matin, en rangeant mes affaires dans une poche, je retrouve des restes humains de l'une des victimes. Et à partir du moment où je pose ma tenue de feu, je sens que quelque chose ne va plus, mais je ne sais pas quoi. Et quand je pousse la porte de la maison, je ne peux pas imaginer que je ne retournerai pas à la caserne avant longtemps. Le lendemain matin, la journée s'annonce belle. Je pousse la porte qui donne sur mon jardin. Je ne vois aucune couleur. Je ne sens aucune odeur. J'ai la sensation d'être hors du temps. Je croise mes enfants qui partent à l'école.
Bonne journée, papa.
Mais quelle heure est-il? Je me lave les mains. J'oublie de fermer le robinet. Je prends du lait pour le petit déjeuner. J'oublie de fermer la porte du frigo. Je pose la casserole sur le feu, mais je n'allume pas le gaz. Je suis épuisé. Alors je cherche à m'allonger. Impossible de fermer l'œil. Et ensuite, je me retrouve à genoux dans le jardin. Je ne sais pas comment j'y suis allé. Je prends ma tension, mon pouls. J'ai peut-être fait un AVC. Je suis perdu. perdu. Et ça dure comme ça toute la journée. Et le soir, quand je vais me coucher, dans la nuit, je me retrouve sur cette nationale. Il n'y a personne. Je suis accroupi près de cette voiture broyée. Et là, je tourne la tête. Et ils sont tous là, en arc de cercle. Ils me regardent immobile, le bébé dans les bras de sa mère. Et personne ne me parle. Et moi, je leur demande pardon. Pardon parce que je n'ai servi à rien, malgré toute mon expérience. Et pour la première fois, j'explose en sanglots. Je me retrouve en larmes dans mon lit. Ça fait une semaine qu'ils sont morts. Et je n'arrête pas de penser à ça. J'ai promis à ma femme d'aller voir quelqu'un. La séance est menée de façon très professionnelle. On parle à tour de rôle, les infirmiers nous écoutent, et moi, je suis présent, hein, mais je n'ai pas d'émotion. Je suis décalé avec mon corps, comme si je regardais la scène derrière une glace sans teint. Les deux infirmiers psy se regardent, et sans un mot, ils appellent les urgences psychiatriques. Le lendemain, me voilà aux urgences post-psychiatriques de l'hôpital, au milieu de gens avec le regard perdu, et d'autres qui ont des tics, et à côté de moi une dame qui fait de drôles de bruits avec sa bouche et qui bouge les jambes. Mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, il y a des fadas. Je suis sapeur-pompier. Je me suis fait surprendre dans une intervention, d'accord? Mais je suis pas fada. Bien, monsieur. Vous pouvez simplement me raconter ce qui s'est passé, hein? Racontez-moi cette intervention. Au début, je raconte sans problème. Et puis, mon regard se baisse. Je cherche mes mots, je perds le fil, j'ai du mal à respirer. Mais malgré tout, j'arrive à dérouler toute l'opération et à empiler mes gestes, mes morts et mes mots sur le bureau. Bon, monsieur, vous êtes ce qu'on appelle en état de stress dépassé. Et tous les symptômes que vous décrivez sont évidemment les conséquences de cet événement. Hein, vous avez été confronté à plusieurs morts avec un sentiment d'impuissance. On va devoir agir vite, monsieur. Hein, vous rentrez dans les protocoles d'urgence, hein, qui sont prévus pour les militaires qui rentrent de la guerre. Vous présentez ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique. Je vais vous aider, hein. Je vais d'abord vous donner des médicaments qui vont vous stabiliser. Et puis nous allons mettre en place un traitement de fond, notamment un protocole qu'on appelle EMDR. On fait pas ça à l'hôpital, mais je vais vous orienter vers une psychologue. Je découvre pour la première fois ma psychologue. Asseyez-vous, monsieur. Elle est plus âgée que moi, et sa voix est douce et agréable. J'ai envie de lui faire confiance. Et elle me fait raconter, encore une fois, mon histoire. À chaque blocage, chaque changement de voix, chaque débordement émotionnel. Regardez bien ce point-là, hein, sur l'écran de l'ordinateur. Et suivez-le bien des yeux. Cette première séance me laisse assez perplexe. Hein. Des mouvements des yeux? Mais les séances s'enchaînent. Et je m'habitue à cette nouvelle amie. Ça fait maintenant 3 mois que l'accident a eu lieu. Et les nuits sont encore longues. Et quand la fatigue finit par l'emporter, je suis de nouveau sur le bord de cette route. Et au réveil, la journée est lourde. Chaque bruit me fait sursauter. Et concernant les autres, ma tolérance est proche du zéro. Je ne supporte plus rien. Aujourd'hui, par exemple, j'ai décidé de faire une tarte aux pommes. Mais je me perds. Sur la recette, il est écrit qu'il me faut 30 minutes. Et moi, il me faut 4 heures pour fabriquer cette tarte et la cuire. Un an, déjà. Et les choses n'ont pas vraiment changé. Le monde extérieur est encore trop rapide, il est oppressant. Et je suis bien seul à la maison à organiser une chose après l'autre. Est-ce que je vais pouvoir recommencer à exercer mon métier? J'ai besoin de savoir. Alors avec l'accord des médecins, je retourne à la caserne, avec un temps de travail adapté. Oh, salut Eric, content de te voir. Eric, ça me fait plaisir que tu sois de retour. Et doucement, la journée démarre avec son lot d'interventions. Et mes gestes sont là. Mais j'ai l'impression d'être spectateur de ce qui se passe autour de moi. Et le soir, au cours de ce petit rituel au cours duquel on partage une bière ou un martini et où chacun raconte sa journée, je suis là, hein, mais sans y être. Je me rends compte que j'ai cru être un pompier prêt à toutes les situations, un guerrier, debout face aux caprices de la vie, un roc indestructible. Mais j'ai oublié qu'avant tout, je n'étais qu'un homme. Ça fait 1 an et demi que je fais un travail quotidien pour reprendre ma vie d'avant. Mais je crois que je ne la reprendrai jamais. Un jour, mon médecin me parle de méditation.
C'est une technique très adaptée, vous verrez. Et elle est très efficace quand elle est bien maîtrisée. Il existe un programme en 8 semaines.
De la méditation? Ça me fait tout de suite penser à un homme avec une cape rouge-orange, un gars qui habite dans l'Himalaya et qui, au plus fort de sa transe, se met à léviter au-dessus des cailloux. Une espèce de mode New Age, quoi, pour les bobos et les j'aime les fleurs. Mais la mindfulness, la méditation de pleine conscience, n'est ni idéologique ni spirituelle. Alors, je décide de tenter l'expérience. Une retraite de 5 jours dans les Cévennes, un hameau magnifique, et un groupe hétéroclite avec des gens de tout milieu, et des histoires difficiles.
Tout d'abord, faites en sorte de vous tenir le plus droit possible. Cela va faciliter votre respiration, qui va être notre outil principal avec votre attention. Entre et inspirez plusieurs fois profondément, par le ventre.
Les méditations commencent à 7h du matin et elles s'enchaînent jusqu'au soir. Et au fil des jours, je commence à comprendre et à ressentir mon corps. En parallèle, je découvre au hasard des rencontres une technique japonaise du 15e siècle qui s'appelle le kintsugi. C'est une technique de restauration des céramiques d'art qui sont brisées. Elle consiste à reconstruire un objet cassé avec patience, avec minutie, et à la fin, le sublimer en soulignant les fractures avec de la poudre d'or. Au fond, ce sont des étapes similaires à mon histoire. Se reconstruire en acceptant ses cicatrices et chercher chaque jour à rassembler les morceaux de moi-même. Le kintsugi m'apprend la patience et le temps. Alors pour l'instant, je suis encore loin de rentrer à la maison, sublimé, fier et unique. Disons que j'en suis à l'étape du séchage. Trois ans et quelques mois après l'accident, je vis désormais en Ardèche, dans mon village familial, loin du superflu imposé par les obligations des gens des villes. Et c'est dans cette terre rude et parfois sauvage, drapée de contes et légendes, que j'arrive à entrer en résilience. Je suis en accident du travail, imputable au service. Je ne dors qu'avec des cachets. Mon cœur ne peut rester sage que grâce aux bêta-bloquants. Je prends toujours des anxiolytiques. J'ai parfois l'impression de m'isoler. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. À chaque jour suffit sa peine. J'essaye seulement de ne rien faire, mais de le faire bien. Cette histoire est tirée de votre livre, Éric Gouvernet, aux éditions de l'Harmattan, Blessure d'âme d'un soldat du feu. Ça va ?
Ben ça va, ça fait remonter encore une fois plein de choses, plein d'émotions.
Je m'en doute, et pardon de vous avoir fait revivre tout ça, mais au fond je ne l'ai fait qu'avec vos mots, en utilisant vos mots, tous tirés de votre livre, rien de plus. Est-ce que ça fait partie de votre thérapie d'écrire ce livre ?
Alors je pense que quelque part ça a fait partie de la thérapie, mais le but surtout c'est après ce constat, après cette blessure, c'était vraiment de transformer l'événement en quelque chose de positif, hein, essayer de le transcender en quelque chose de positif et de faire un message pour tous les gens, notamment les collègues pompiers, mais aussi tous les gens qui travaillent dans les services d'urgence et qui sont confrontés comme ça à des situations de stress dépassé et qui peuvent se faire surprendre comme moi ça m'est arrivé. Et de dire, ben voilà, ça m'est arrivé à moi alors que j'avais aucune prédisposition particulière. Ça peut vous arriver à vous. Voilà mon témoignage, ne restez pas seul. Et voilà, je voulais vraiment faire ce témoignage pour ça, quoi.
Et je le précise parce que le problème de la radio, c'est qu'on ne vous voit pas, mais je suis là pour vous décrire. Vous êtes une armoire à glace avec des gros bras tatoués. Ça peut donc arriver à une baraque comme vous.
Ça peut arriver à tout le monde, en fait. Quand on comprend le système de la blessure, c'est pour ça que j'ai dit blessure d'âme. C'est vraiment une blessure comme on se ferait une entorse, une fracture sur une intervention. Donc ça peut arriver vraiment à tout le monde. Après, les mécanismes, bon, je les explique dans le livre, hein, c'est la montée en puissance et puis la répétition de l'événement et le stress qui va monter chaque fois un peu plus haut, qui fait qu'à un moment donné, ben, on passe à un stress dépassé. Voilà, on essaie quand même d'aller jusqu'au bout. Inévitablement, ça va laisser des marques et des traces indélébiles.
À partir de là, où est-ce que vous en êtes de votre histoire ? Je n'ai pas raconté le livre au bout, puis j'en profite pour le répéter, je le dis souvent, je ne raconte pas tout le livre, on ne peut pas en 30 minutes comme ça raconter tout ce qui est écrit dans ce livre. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Au même point, c'est-à-dire que au jour le jour, vous essayez de faire les choses et de les faire bien ? Et rien de plus.
Exactement. En fait, aujourd'hui, je suis exactement comme la dernière phrase du livre, je suis au même point. J'ai toujours des problèmes de concentration qui sont très marqués, des problèmes d'orientation dans l'espace-temps. Donc, j'essaie de construire mes journées et de faire les choses une après l'autre. Et puis, j'essaie de me rencontrer et de découvrir le nouveau bonhomme que je suis devenu. Parce qu'inévitablement, il y a des choses qui ont changé profondément en moi. Et autant sur le regard, sur la vie de manière générale, qu'au travers du parcours donc de guérison, au travers de la méditation, etc. Voilà, j'ai ouvert des portes sur tout un tas de domaines que je n'avais pas pris le temps d'ouvrir.
Et évidemment, quelque chose m'a sauté aux yeux, c'est que sur cet accident, vous êtes seul. Alors que, en général, les pompiers interviennent en équipe, entre amis, souvent, parce qu'une équipe de pompiers, c'est soudés, donc on affronte ensemble, on assume ensemble, on rentre à la caserne ensemble, on débriefe ensemble. Et là, vous ne pouvez rien partager de tout ça. C'est un cas presque unique dans une vie de pompier, ça.
Mais c'est un des déclencheurs, quand on fait un petit peu le travail de recherche de l'accident, de la blessure psychologique. Quand on part, quand on prend le ticket de départ chez les pompiers, le temps du parcours, on est déjà dans un équipage composé,
ouais,
que ce soit le fourgon,
qui se connaît bien,
et pendant le laps de temps de parcours jusqu'à arriver sur les lieux d'intervention, on a le temps de préparer, le chef d'agré prépare son opération, chaque personne rentre un petit peu dans son automatisme et dans sa mécanique de travail. C'est à ça que servent d'ailleurs les manœuvres et les entraînements quotidiens. Ce jour-là, je suis parti en pensant que mes collègues étaient déjà sur place. Et très rapidement, en arrivant sur place, je me rends compte que je suis tout seul. Surtout que moi, je tiens des fonctions de cadre aujourd'hui.
Oui.
Donc, je manage voilà, des opérations de ce calibre.
Oui.
Puis là, pour le coup, ben, y a personne, j'ai pas de matériel. Et du coup, de cadre, je me retrouve en primo intervenant.
À entrer dans la carcasse en par-dessus les corps.
Voilà.
Le fait d'être seul a été une partie du trauma. N'est-ce pas ?
Ben, le fait d'être seul, très rapidement, il faut reconsidérer la situation, refaire une analyse et mettre en place une première réponse. Donc, ce laps de temps est très court. Donc ça a déjà été un coup de stress.
Initial.
Voilà, initial. Après, c'est vrai que le travail sur les enfants, c'est compliqué, notamment le bébé. Ça a été vraiment 50% du choc qui m'a touché. Et ensuite, ben, tout le reste, parce que ça s'est enchaîné jusqu'au bout, quoi.
Vous dites les enfants, et ça, dans toute votre histoire, ça transparaît. Les enfants, c'est difficile. Vous parlez de cette petite fille que vous avez rencontrée au Kosovo, Valbonia, à laquelle vous êtes attaché. Et quand vous décrivez vos opérations avant ça, hein, vous vous attardez beaucoup sur cette mère qui s'est suicidée avec le cadre de ses enfants autour du cou, sur ce bébé qui s'était étouffé pendant son sommeil. On sent que il y a quelque chose à gratter de ce côté-là, c'est-à-dire que vous êtes sensible au sort des enfants. Avant, bien avant cet accident.
Je pense de manière générale que tous les sapeurs-pompiers ou tous les intervenants d'urgence sont sensibles, plus particulièrement au sort des enfants, notamment quand on passe le cap d'être papa. Moi, j'ai 3 enfants, donc il y a des phénomènes de transfert qui se mettent en place inévitablement. Mais c'est vrai que ça reste une des interventions qui est le plus engagée, le plus difficile à gérer et à traiter lorsqu'il y a des petits. Mais je pense que c'est, de manière générale, tous les collègues qui sont impactés de cette manière-là.
J'ai été étonné d'ailleurs que, dans votre parcours thérapeutique, il n'y ait pas de psychothérapie ou de psychanalyse. Ou peut-être il y en a eu et vous ne me l'avez pas raconté, parce que votre histoire commence, vous dites vous-même que vous avez une enfance fracturée, et on retrouve ces enfants tout au long du parcours jusqu'à ce moment où ce bébé est là et vous ne voyez pas qu'en fait il est coupé en deux. Ça c'est un sujet en or pour la psychanalyse. Il y a eu des choses comme ça ?
Il y a eu un parcours de psychanalyse, mais au départ, comme le syndrome de stress post-traumatique a été identifié rapidement, et ils ont vraiment mis en place vraiment la procédure d'urgence pour désamorcer en fait les mécanismes
physiquement,
puisque la blessure psychique va impacter le corps de manière physique et dans la matière profondément. Donc, pour essayer de désamorcer ces blessures mécaniques.
Vous parlez d'une mission divine. Au moment où vous enchaînez ces entrées, ces sorties de la voiture en extrayant les cadavres un par un, c'est à peu près l'antithèse du métier de sapeur-pompier, ça. Mission divine. Enfin, j'ai jamais entendu que les pompiers avaient une mission divine. Comment est-ce qu'à ce moment-là, vous vous donnez cette mission-là?
Mais disons que c'est vrai que les pompiers, on a toujours des missions de sauvetage, d'assistance, de secours.
Froide,
voilà, on intervient, que ce soit dans des incendies comme feu de forêt, feu d'habitation, ou etc. Mais là, confronté vraiment, alors je vais employer un mot qui n'est pas à la matière première qui est l'humain, à un moment donné, à sortir tous ces corps dans cette souffrance, dans cette torture, et automatiquement, je vois bien que les cas sont graves, avec une issue qui n'est pas très bonne dès le départ, quoi. Donc là, à ce moment-là, c'est vrai que je ne sauve plus les gens, quoi, j'essaie de sauver des âmes, quasiment, et je veux à tout prix qu'elle reste là, quoi, finalement, je veux essayer de faire quelque chose, et tout m'échappe, c'est terrible, donc... C'est vrai que l'expérience aussi de la grand-mère qui me traverse, c'est un ressenti.
Qui meurt dans vos bras.
C'est ça, elle est contre moi, là, sa tête dans mon cou, et puis elle pousse un dernier souffle dans mon cou, parce que je suis en train de la dégager aussi du véhicule. Et là, il y a un ressenti physique vraiment marqué qui se fait. Donc, c'est pas une vue de l'esprit, je l'ai vraiment ressenti physiquement. C'est pour ça que là, je touche peut-être à quelque chose qui dépasse un petit peu le cadre.
Mais vous n'êtes pas porté sur le mystique, vous le dites après, on y reviendra.
Oui.
C'est pas votre truc à la base. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ce bébé et cet adulte, qui sont les seuls rescapés de cet accident? Vous le savez, évidemment.
Alors, le petit garçon...
Dites-moi qu'il a survécu.
Il a survécu, j'ai des nouvelles.
Oui.
Voilà, on m'envoie des photos très régulièrement. C'est un petit garçon qui garde, malheureusement, pour l'instant...
Un handicap.
Des handicaps au niveau moteur, etc. Enfin, des jambes, mais qui va pouvoir remarcher, puisqu'il boite énormément.
Vous l'avez pas vu?
Si, si, je l'ai vu. J'ai été obligé d'aller le voir, fallait le voir.
Il fallait qu'il y en ait un vivant, quand même.
Ouais, c'était vraiment... il fallait que je le prenne contact avec lui, j'ai vu sa famille, je l'ai vu à lui.
Et l'adulte?
Et l'adulte, en fait, lui, il garde des séquelles neurologiques marquées, et j'ai pas eu d'autres nouvelles après.
Alors, il y a 2 techniques qui sont en train de vous aider, semble-t-il, à aller mieux. La première s'appelle l'EMDR. Alors, si j'ai bien compris, c'est basé sur un système de clignement des yeux. Expliquez-moi ça.
Donc, l'EMDR, c'est une stimulation qui est faite par une psychothérapeute, avec des tapotements ou avec des mouvements sur un écran où les yeux doivent suivre un point qui bouge. Et au fur et à mesure qu'on suit ce rythme, en fait, elle remémore, elle nous fait parler de l'événement.
Tout en suivant ce point.
Tout en suivant ce point.
Oui.
Et au fur et à mesure, elle fait des stimulations par des tapotements sur les genoux, sur les mains, en fait, sur une partie du corps. Dès qu'elle capte que l'événement reste accroché au niveau neurologique, en tout cas, elle le voit au niveau des yeux. Et elle le fait libérer des charges émotionnelles comme ça. Ce qui paraît complètement aberrant parce que...
au début, j'imagine que la baraque que vous êtes...
Ouais, j'ai dit, je sais pas ce que je viens faire là, une fois de plus, avec beaucoup de...
C'est une secte, ça ressemble un peu à ça, quoi.
Voilà, hein. Beaucoup de préjugés au départ. Et puis le premier soir, en fait, il y a eu beaucoup d'émotions qui sont remontées, qui sont revenues à moi. Donc c'était vrai, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. En tout cas, pour moi, il y a plusieurs outils. C'est un outil qui a pas trop mal marché dans l'ensemble.
Non. Donc vous dites aux gens, n'ayez pas peur, si vous devez en passer par là, c'est pas inefficace.
Non, c'est pas inefficace, non. Faites confiance aux soignants.
Alors la méditation de pleine conscience, c'est à peu près le seul moment où on sourit dans votre histoire, parce que, évidemment, comme beaucoup de gens, comme moi notamment, vous pensez que c'est un truc pour babacool, hindouiste, vous dites pour les « j'aime les fleurs », sous-entendu, tous les rêveurs, quoi. Et pourtant, vous avez le courage d'aller à ce premier stage de méditation de pleine conscience, et on sent que ça vous a beaucoup apporté.
Effectivement, quand on sort un peu des caricatures et puis des postures, et qu'on prend la peine de regarder un petit peu autour de soi, déjà on rencontre des gens qui font autre chose et qui le font avec passion, et puis cette discipline permet vraiment, sans connotation spirituelle quelconque, de se centrer, de travailler sur sa respiration et d'être vraiment présent dans son corps. Ce qu'on fait très rarement, puisqu'on est toujours happé par la vie, par la vitesse des événements qu'on a autour, du sport qu'on fait, des soirées, des enfants de notre femme, etc. Donc là, on prend ce moment pour nous et on travaille là-dessus pour pouvoir se recentrer, revenir à soi, être présent dans son corps et dans l'instant. Alors ça, dans l'instant, ça fait un peu spirituel aussi, mais c'est malgré tout une réalité. Et du coup, ça amène ce calme et cette capacité d'introspection, de travailler sur soi, en fait, et de revenir à quelque chose tout de suite, ici et maintenant. Voilà.
Aujourd'hui, par exemple, je vous ai torturé, puisque nous vous avons fait venir depuis votre Ardèche jusqu'à Paris. Pour affronter ça, c'est-à-dire le TGV, ensuite le taxi ou le métro, vous avez pris le métro ou le taxi ?
Le taxi.
Bon, la circulation, la ville que vous détestez, est-ce que vous avez pratiqué cette méthode ? Pour affronter ça ?
Je l'ai fait avant de venir.
Dans le taxi ?
Non, dans la chambre d'hôtel que j'ai récupérée avant,
ouais.
avant de venir à l'émission. J'ai fait mes 45 minutes de méditation pour être aligné et puis vous donner le meilleur de ce que je vais pouvoir vous donner pendant cet entretien.
Pardon hein, de vous avoir fait affronter la ville, mais il faut essayer de temps en temps, non ?
Ah ben c'est une expérience qu'il faut essayer, il faut renouveler ça très régulièrement, parce que le but c'est pas de s'isoler, mais bien au contraire d'arriver à retrouver une vie sociale avec tout le monde.
Parce que c'est quelque chose que vous effleurez, mais qu'on comprend, c'est que vous êtes donc là-bas en Ardèche, dans votre village, que ça va plutôt pas mal là-bas, mais on comprend que votre femme n'est pas là avec vous, n'est-ce pas ? Elle est là avec vous ?
Oui, tout à fait.
Elle est là-bas avec vous en Ardèche ? Oui. Que sans doute ça n'a pas été facile tout ça pour le couple ?
Non, pas du tout.
Ouais. Que ça a été un combat pour le sauver aussi, ce couple ?
Oui, c'est en cours même, encore.
C'est encore en cours, oui. C'est un travail qui n'est jamais fini. Merci beaucoup, Eric, de nous avoir confié cette histoire, qui est à la fois très douloureuse et pleine d'espoir. Et ce livre qui s'appelle « Blessure d'âme d'un soldat du feu » qui paraît aux éditions de l'Harmattan, écrit donc par Eric Gouvernet.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.